servir aux gens qui vont l'écouter. Et démarrer avec cela. Hein. Vous voyez qu'on est assez au large. Alors, Cécile, vous avez une question? Mesdames.
Quel signe? Ah, d'accord. J'aimerais bien savoir. Non. Peut-on savoir quel état de contemplation? Est-ce qu'il y a des signes? On peut savoir, on a déjà atteint la contemplation ou on a encore dans le. Alors, est-ce que. Première question. Deuxième question, j'aimerais bien savoir la différence entre. C'est pas la différence, je sais pas. L'oraison, l'adoration et la contemplation. La contemplation, non, c'est le but de notre prière. Et l'adoration, c'est, si j'ai bien compris, c'est plutôt c'est la présence réelle. Mais pourquoi la spiritualité carmélitaine, on a insisté beaucoup sur l'oraison. Est-ce que pour nous, on comprend pas qu'on la vie, on est. Notre sacré dans le monde, ça nous, enfin, c'est facile, enfin, je ne sais pas comment dire, pour prière, comme les petites chapelles, tout ça, dans notre chambre. Mais pour les religieuses, et en ce cas-là, est-ce qu'ils ont insisté beaucoup sur l'adoration ou l'oraison? Je ne sais pas. En tant que moi, je suis plus sensible, normalement, quand on parle, la présence réelle, ça me fait beaucoup. Et l'oraison, c'est vraiment, c'est une assaise, autrement, c'est plutôt négatif. Je ne sais pas comment.
Très bien, vous posez deux questions dont la réponse n'est pas facile, il faut bien dire. Et je crois que je ne pourrais pas la donner complète tout de suite, parce qu'évidemment, nous allons toucher cette question de l'adoration eucharistique avec ce que nous allons aborder aujourd'hui, hein, sur le pain quotidien. Et ensuite, je voudrais, d'une certaine façon, me tenir strictement à ce que dit Thérèse. Je pourrais faire appel immédiatement aux trois signes de la contemplation donnés par Saint Jean de la Croix dans le livre de la montée du Carmel, au livre 2, chapitre 13 à 15, où il les analyse dans un certain ordre. Et il reprend cela dans le livre de la nuit obscure, le livre 1er, chapitre 9. Alors, évidemment, ce serait facile et tentant de vous donner la solution de Saint Jean de la Croix, que vous connaissez, Cécile. Vous la connaissez. Vous suivez les cours sur Saint Jean de la Croix dans cette vénérable institution.
Oui, je crois que je passe encore assez approfondi.
Cette réponse modeste et touchante. Bien. Alors. Je dois vous dire que cette question, je vais commencer par la seconde. Hein. Après, je crois que le père Arnaud a une autre question.
Ah oui.
Donc, tu peux la dire et puis on va. Non, non, tu vas la dire après. Tu vas la dire après.
Comme vous voulez.
Alors, merci. Cette question, comment dire, d'une opposition entre guillemets, d'une différence, d'un contraste ou d'une complémentarité entre ce que nous appelons adoration et contemplation n'est pas une question facile. Il est clair, lorsque nous employons le terme adoration, actuellement, dans l'Église catholique, cela fait habituellement référence à l'adoration eucharistique, à notre mise en présence de la présence réelle, sacramentelle, eucharistique du Seigneur, actuellement. Mais lorsque vous lisez l'Évangile selon Saint Jean, et que vous écoutez Jésus parler à la Samaritaine, et qu'il dit au chapitre 4, donc, le Père, ce sont des adorateurs et en esprit et en vérité que le Père attend. Hein. Donc ces adorateurs en esprit et en vérité, ce ne sont pas forcément des adorateurs de la présence réelle et eucharistique du Seigneur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le mot adoration. Hein. Il est dans nos esprits actuellement, dans le contexte actuel de l'Église catholique, qui a connu des décades un petit peu de... Comment dire, j'essaie de trouver des mots français faciles aussi, hein, ou bien, comment dire, l'adoration eucharistique a été un petit peu contestée, on va dire ça rapidement, simplement, et il y a tout à fait un retour à ce niveau-là. Donc des temps d'adoration eucharistique communes ou personnelles, hein, dans des communautés, dans des paroisses, etc. Hein. Donc là, c'est très nettement, ça a pris très nettement ce sens-là, hein, d'adoration, avec une liturgie appropriée. Hein, on est d'accord, hein. C'est dans la prière liturgie de l'Église des temps d'adoration. Oui. Donc dans notre esprit, c'est ça, l'adoration. Mais je crois qu'il faut quand même penser que de manière plus large, les adorateurs en esprit et en vérité que veut le Père, eh bien, c'est plus large que la concentration sur l'adoration eucharistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un premier point que je voudrais signaler. L'adoration dans notre vie, hein, le mot même et l'attitude, qui est là, c'est l'attitude religieuse par excellence, hein, elle est donc plus englobante, plus vaste que l'adoration eucharistique. Ça va? Bon, c'est des éléments que je vais vous donner. Hein. Je ne vais pas vous donner une réponse exhaustive. Hein. Je ne cherche pas cela. Hein. Alors, l'adoration, le culte en esprit et en vérité que le Père attend, hein, c'est la mise en acte, en exercice, de ce qu'on appelle la vertu de religion. C'est-à-dire reconnaître Dieu comme Dieu et Seigneur de la création, du cosmos, de nos vies, hein, de tout ce que nous sommes, de nos personnes. C'est ça. Hein. C'est l'acte de la vertu de religion, hein, prière d'adoration, hein, qui rend hommage, qui fait révérence, hein, et référence à Dieu, au Dieu de la création, au Dieu du salut. D'accord? Bon, donc c'est quand même assez large. Ça va? Hein? Alors, que dans la vertu de religion et que dans l'adoration, il y ait cette concentration sur la présence sacramentelle, réelle, eucharistique du Seigneur, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal dans la foi catholique. Mais c'est une concentration. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Ça me paraît important de voir cette nuance-là. Hein? Ben oui, on concentre, notre adoration se concentre sur cette présence réelle, sacramentelle, eucharistique du Seigneur, Jésus. Du Seigneur Jésus. D'accord ? Hein ? Qui nous est donné, bien sûr, par le Père dans l'Esprit Saint. Bien sûr, dans l'Eucharistie, on est tout à fait d'accord. Hein ? Évidemment, il y a notre acte de foi, d'adoration, dans l'adoration eucharistique, et concentré. Ça va? Quand je dis concentré, ça ne veut pas dire que ça exclut le reste, mais voilà, c'est concentré. Bien, donc je vous ai donné un élément historique. Oui, Antoine?
Et justement, quand vous dites concentré, je comprends bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'elle est d'un niveau supérieur, ou est-ce que c'est une intensité plus grande?
Non. Non, non. Alors, attention, concentré. Dans l'adoration, je ne parle pas d'intensité, je dis... Quand je dis, c'est là je parle de notre côté, adoration c'est de notre côté, c'est du côté de la personne humaine. Je ne parle pas de la présence réelle comme présence par excellence. Attention, hein, d'accord? J'essaie de vous faire comprendre que adoration c'est plus vaste, hein, c'est plus ample, c'est plus englobant, hein, et que c'est vraiment l'expression, l'acte, l'exercice de la vertu de religion. D'accord? Bon. Voilà, c'est parce que j'essaie un petit peu de sortir des oppositions, hein, qu'on peut faire. Donc j'essaie de vous donner quelques éléments pour en sortir déjà, rien qu'avec le mot adoration. Donc la question que tu me poses là, au niveau de l'intensité, non, au niveau de la qualité et de l'intensité, je ne peux rien dire, je ne peux pas dire du plus ou du moins. Non, non, non.
C'est parce que vous avez dit concentré, hein, vous voyez pas.
Alors concentré, c'est pas une densité, c'est plutôt que c'est concentré parce que c'est la présence eucharistique du Seigneur. C'est concentré aussi dans un lieu où il y a cette présence sacramentelle. C'est ça aussi, physiquement. Hein? Le sacrement de l'Eucharistie, il traîne pas partout. Hein? Et s'il vous plaît, ne l'emportez pas chez vous pour l'adorer parce que ça vous fait plaisir. Je veux dire, ça, c'est tout à fait anti-liturgique. Vous voyez, c'est des. Hein? Donc, ça va. Mais quand je vous le dis aussi, là, alors c'est au niveau du temps et de l'histoire, le sacrement de l'Eucharistie, je ne fais pas un cours sur l'Eucharistie, mais enfin bon, c'est le sacrement de la voie, in via, des chrétiens en voie, en chemin. Au ciel, nous n'aurons plus l'Eucharistie et nous adorerons. C'est ça ? Comme les anges. Ouais ?
Ouais.
D'accord ? Hein ? Donc, bon. Voilà, c'est pour un petit peu ouvrir les choses, vous voulez dire, Père Paul ?
Je ne sais plus si c'est dans sa vie ou dans le château où Thérèse d'Avila dit que, même en présence du Saint-Sacrement, elle trouvait que ça portait plus de fruits de considérer le Christ présent en elle-même que devant elle.
Alors, on va voir ça. C'est au chapitre 36 du chemin de la perfection. C'est dans le chemin de la perfection.
Ah,
d'accord. Voilà, on va le voir. Alors justement, bon, on va être un petit peu prémunis avec tout ce qu'on débroussaille maintenant. Hein. Je vous donne pas une réponse exhaustive. Hein. Alors, donc c'est un premier point. Contemplation, donc ça va rejoindre aussi ça. Hein, vos questions se tiennent, en fait. Hein. Alors, pour Thérèse, je dis abstraction faite de Jean de la Croix, c'est possible ? C'est un peu terrible, mais on est dans un cours quand même académique, donc on peut se concentrer aussi hein, et essayer de résoudre les questions internes, d'accord ? Alors, pour Thérèse, vous allez le voir, parce que nous allons l'aborder maintenant avec les chapitres 31 et 32, ce que signifie la contemplation, c'est vraiment la descente de Dieu hein, en nous. Ce royaume qui est en nous, dans le silence de la personne, de l'intériorité. C'est ça. Bon, on ne va pas en savoir beaucoup plus avec elle, hein, mais elle parle d'une quiétude, etc. Bon, elle emploie des mots qui sont brûlants à l'époque. Hein, d'autres sont morts brûlés pour moins que ça. Hein, mais voilà, bon. Donc, c'est descendre de Dieu. Hein, je vous ai dit des mots aussi, des images qu'elle employait hier. Je vous ai dit ça hier, avant-hier, à propos du chapitre 17. C'est le Seigneur qui nous tient à sa table, qui traite à table. C'est plein d'images, plein de symboles. Qu'est-ce que c'est en réalité ? C'est une prière qui est un silence d'accueil de Dieu, de la présence de Dieu, du royaume de Dieu. Où l'homme se tait et où Dieu, vous vous rappelez l'expression hier ? Parle, exprime, dit sa grandeur. C'est ça la contemplation. Ouais. Saint Jean de la Croix parlera davantage de lumière. C'est une lumière donnée par Dieu, une lumière dans les ténèbres. Il donnera les signes qui sont l'incapacité à méditer, vous vous rappelez ?
Est-ce que vous pouvez donner trois signes, s'il vous plaît ?
Est-ce que je peux donner trois signes ?
Non,
je peux
vous dire. Saint-Jean-Jean-Croix.
Les trois signes de Saint Jean de la Croix, vous les savez. Donc, vous savez, c'est la difficulté à maîtriser la prière, à méditer, à enchaîner les raisonnements, les concepts, la réflexion. Donc, on n'y arrive plus. La deuxième chose, c'est une sorte de non-appétit pour les choses du monde. D'accord ? Donc, voilà. Bon. Et la troisième chose, c'est une soif, une aspiration, un attrait, le désir de rester. Le trait de Dieu à le fixer d'un regard saint, advertencia amorosa, dit-il. Une attention amoureuse et paisible. Voilà. Ce sont les trois signes donnés dans la montée du Carmel, livre 2, chapitre 13 à 15, parce qu'il analyse beaucoup. Hein. Montée du Carmel, 2, 13 à 15. Il reprend dans la nuit obscure, Eno, 1, 9. Et là, il les inverse, il ne les met pas dans le même ordre. Voilà. Parce que comme il étudie la nuit, il parle plutôt de ce grand dégoût pour tout. Voilà. Le grand dégoût pour tout, il commence par ça. L'attrait pour Dieu, et il met en dernier seulement l'incapacité, l'impuissance, dit-il, à méditer, à maîtriser la prière. Ça va, donc ça, c'est du côté de Saint Jean de la Croix. Ne demandez pas à Sainte Thérèse quelque chose de structuré, de construit en trois points. Vous êtes d'accord ? C'est pas de sa faute, elle peut pas. C'est inhérent à sa nature. Oui. Mais ce qu'elle nous dit de ce silence que signifie la contemplation, de cette présence de Dieu qui, elle dit, suspend les facultés, qui nous met au repos, et qui dit sa grandeur, qui exprime sa grandeur, sa gloire, sa présence, c'est ça pour elle. Ouais. Et c'est une union, une communion, qui va de notre côté demander la foi, l'espérance et la charité, ça c'est clair. Mais elle ne détaille pas tout ça. Ouais. Alors, maintenant, contemplation, adoration. Eh bien, sur la terre, parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème, enfin, il n'y a pas de ni d'opposition, ni de, c'est pas du tout complexe, tout est simplifié. Hein. On adorera et on contemplera, je veux dire, ce sera hein, dans un acte unique et dans la vision de la Trinité et enveloppé par la Trinité, je veux dire, ça, il n'y a pas de problème. Nous nous faisons des problèmes et des nœuds hein, sur la terre, on est d'accord? Alors, que faut-il dire? Je me souviens qu'on avait posé la question, alors, il y a un bon bout de temps, quand on suivait des cours avec Jean-Miguel Garrigue, le père Jean-Miguel Garrigue, à Saint-Nizier à Lyon, lorsqu'il était en paroisse. Vous connaissez peut-être le père Jean-Miguel Garrigue, non? Il vient donner quelquefois des sessions ici.
Miguel.
Jean-Miguel Garrigue, oui. Et c'est lui qui a donné le Triduum pour le centenaire de la consécration de Notre-Dame des Dons. Donc il était chez les Dominicains et puis il en est sorti, il a fait partie d'une fraternité comme le père Revel à Aix, etc. Et puis après il est passé à Avignon dans une fraternité aussi, de moines dans la ville. Il était à Saint-Lizier, nous avons suivi ses cours quand j'étais séminariste, j'ai suivi toute la sacramentaire avec lui, frère Jean-Philippe Revel, donc qui est à Aix encore. Et puis lui, on suivait ses cours. Et c'est suivi aussi, on a suivi un cours d'eschatologie et de pneumatologie. Donc pendant que j'étais séminariste ici, parce qu'on n'avait pas, comme vous, les titres canoniques à l'époque, on était que dans cette salle et on était 5 ou 6. Voilà, c'était la glorieuse époque.
Avec toi.
Ah oui. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est vrai. Ah, I remember.
Ah ouais.
Alors, nous allions donc voir le père Jean-Miguel Garrigue, donc, qui est un théologien quand même très, très pointu, qui a été collègue du père François-Marie Bettel et de son éminence, le cardinal Schönborn. Ils ont été élèves, disciples du père Le Guillou à Paris, dans les années fastes 70, tout ça, 68-70. Une période, bah, vous n'étiez pas né, mais enfin voilà. Donc, alors, au père Jean-Miguel, je me souviens qu'il était question, on faisait le cours sur l'Eucharistie, il était question de l'adoration eucharistique, et nous, venant de notre âme de vie, 2 heures de raison par jour, tout ça. Alors, nous lui avons posé cette question, alors père, y a-t-il une différence entre l'adoration et l'oraison? Et que conseillez-vous aux gens qui font oraison, etc. Donc, voilà. Est-ce que c'est recommandable de faire oraison toujours en présence du Saint-Sacrement, exposé ou pas exposé. Enfin, on avait donné des détails, on était des bons séminaristes. D'accord? Bon. Voilà. Alors, je ne me souviens pas de la réponse complète qu'il avait donnée, mais il nous avait dit, alors, une chose est l'adoration et autre chose est la contemplation sur la terre. Voilà. L'oraison contemplative. La contemplation au sens d'oraison contemplative. Alors, au sens de la démarche qui est adoptée. Et donc, il disait, ce serait certainement dommage de les confondre tout le temps, même si elles se rejoignent. Je me souviens de ça. Et il disait, de fait, et en échangeant avec lui, on évoquait par exemple Saint Jean de la Croix qui formait ses novices en leur apprenant à prier, pas toujours dans une chapelle où il y a le tabernacle, mais aussi dans la nature. Il emmenait ses novices au bord de la rivière, à Grenade, pour contempler les poissons dans l'eau et se réveiller à la nature. Et on évoquait aussi Sainte Thérèse, alors pour le coup, qui elle l'a dit dans le chemin de la perfection, à propos de la pauvreté, hein, qui donc faisait construire des ermitages, dans, même quand il y avait très peu d'espace, comme à Saint-Joseph d'Avila, il y a très peu d'espace, elle a fait 4 ermitages dans un colombier, où il y avait des pigeons, hein. Elle l'a coupé en 4, et elle a fait 4 ermitages, où on peut se tenir comme ça, une personne à la fois, hein, si c'est allé, hein. Et parce que, eh bien, il faut pouvoir prier dans la nature, il faut pouvoir, oui, vivre la contemplation, l'oraison contemplative dans la nature, adorer la présence de Dieu dans la nature et dans sa création, dans le cosmos, et aussi, fondamentalement, la voie de l'intériorité thérésienne et augustinienne, le chercher au-dedans de soi. D'accord ? Donc il nous disait, il y a dans l'oraison contemplative de style carmélitain, telle qu'elle est proposée par les maîtres du Carmel, donc Jean-Baptiste Interpretavilla, une recherche d'intériorité, hein, de la présence intérieure du Seigneur. Cette présence, c'est une relation, c'est bien, hein. C'est-à-dire que c'est une présence qui nous enveloppe constamment, qui est immense, hein, qui nous enveloppe constamment, et c'est nous qui la réalisons, qui l'actualisons dans une relation de foi, d'amour, d'espérance, de confiance. C'est nous qui l'actualisons. Mais la présence de Dieu, elle est enveloppante. Hein. D'accord, hein. Donc, c'est ça que nous réalisons par une localisation qui n'en est pas une, au-dedans de nous. Dans le silence intérieur, en faisant abstraction des choses, pour pouvoir être attentif à cette présence que nous, qui est une présence spirituelle, évidemment, hein, donc, et que nous percevons par notre esprit et dans notre esprit. Ça va ? Donc il y a ce mouvement d'intériorité qui est propre à l'horizon thérésienne, à l'intériorité thérésienne, d'accord ? Augustinien, thérésienne, dans cette ligne-là. Ça, le recueillement. Ça va ? Bon. Alors il dit, ce serait dommage de toujours confondre et de toujours vivre l'oraison en présence du Saint-Sacrement. Il faut que vous soyez, et c'est vrai, je crois que dans la formation carmélitaine, on perçoit ça, hein, on l'apprend. Il faut qu'on puisse prier, rejoindre Dieu, dans beaucoup de situations où on peut faire silence. Ce qui nous importe, c'est le silence intérieur, pour être attentif à cette présence, d'accord ? Alors, il disait, et je crois que c'est très juste, mais le Père Marie-Jeanne le dit aussi dans « Je veux voir Dieu » à propos du recueillement, c'est assez intéressant, vous pourrez aller voir, la présence eucharistique peut être très recueillante pour certains esprits à certains moments, et pour d'autres esprits à d'autres moments, pas du tout. Ça vient de nous, ça vient pas de la présence elle-même, d'accord ? Donc, il dit, c'est assez rigolo dans « Je veux voir Dieu » parce qu'on a l'impression qu'il se contredit, il dit pour certains esprits, pour certaines personnes, certaines âmes, c'est évident que se recueillir en présence du Saint-Sacrement, enfin la présence eucharistique du Seigneur a des effets recueillants, généralement. Et puis, le paragraphe suivant, il dit « Mais pour d'autres, c'est tout le contraire. » Et elles préféreront, ces personnes, aller au désert où sa nudité, son immensité, etc., leur permettra de rejoindre davantage la présence immense de Dieu. Vous voyez ça ? Donc, voilà. Donc, ce serait dommage de confondre, hein, et de superposer toujours. D'accord ? Bon. Alors, l'autre chose aussi, l'adoration eucharistique, me semble-t-il, elle est dans la liturgie de l'Église. Et donc, elle a quand même des rites. Vous n'allez pas vous promener en bus avec le Saint-Sacrement, vous n'allez pas, parce que vous êtes chez vous, que ça vous toque tout d'un coup, voilà, aller chercher le Saint-Sacrement pour l'adorer, non. Je veux dire, c'est dans la liturgie de l'Église, c'est dans la communauté de l'Église, vous ne faites pas n'importe quoi, à n'importe quel moment, quand ça vous chante, vous voyez ça? Non mais, c'est quand même assez important. Donc l'adoration eucharistique a une dimension ecclésiale très forte, sacramentale et ecclésiale très forte. Alors, vous voyez, là aussi, vous ne pouvez pas superposer. C'est convergent, mais vous ne pouvez pas superposer. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas du pareil au même. Je souligne vraiment fortement cette dimension ecclésiale, et, bon, à cause du sacrement, de l'Eucharistie. Sacramentale, donc ecclésiale, de l'adoration eucharistique. Alors que vous vous réveillez la nuit dans certaines communautés pour l'adoration, très bien, oui, très bien. Pourquoi pas, hein, ça c'est vrai. Il y a des fois, et je me souviens que le Père Gary nous avait rendu attentif à cela, à cette présence eucharistique, on n'en fait pas ce qu'on en veut et n'importe quoi. C'est l'Église et c'est d'abord l'évêque qui en est le gardien. Donc, il nous recommandait comme futur prêtre, par exemple, de ne pas nous promener avec une custode parce qu'on va voir un malade, poser la custode dans notre manteau, au porte-manteau, et tranquille. Enfin, il nous rendait attentif à l'objectivité de cette présence et à l'excellence de cette présence. Bon, je veux dire, on n'en dispose pas, elle est confiée à l'Église, dont l'évêque est le gardien. Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi. Alors, quelquefois, je me dis, on expose un peu le Saint-Sacrement à tout bout de champ, à tout moment. Il n'y a quelquefois qu'une personne. Bon, tout ça, ça peut interroger. Quelle est la dimension ecclésiale de tout ça? Vous voyez ça, Parce que ce sacrement est grand. Il nous dépasse complètement. Et vraiment, il est confié à l'Église. Voilà ce que je dirais. Alors, chacun fait comme il veut et comme il peut. Est-ce que ces éléments-là peuvent vous éclairer? Je n'ai pas une réponse, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité. Et je ne prétends pas qu'on ait tout résolu, avec ce que nous disait le Père Gary, mais nous rendait attentif au fait de ne pas superposer, ça ne coïncide pas. Ça converge, mais ça ne coïncide pas. Oui?
Il y a des personnes consacrées.
Oui.
Qui, cette adoration, oui, fait partie de leur vie.
Oui, oui.
Comme ça s'appelle, Handmaids of the Sacred Heart, comme ça. Même Emmanuel.
Oui, bien sûr. Oui, je sais qu'Emmanuel, oui, c'est des questions qui se posent souvent. C'est l'adoration, c'est exclusivement l'adoration, oui. Une heure par jour, oui. Alors, il y a quelquefois des frottements. Je sais qu'il y a des endroits où il y a eu des séminaristes de l'Emmanuel, dans certains séminaires, et comme c'était que adoration, l'adoration, qu'est-ce que vous voulez? Vous exposez le Saint-Sacrement, c'est vraiment la liturgie de l'Église, évidemment. Alors moi j'ai, quelquefois, je vous dis comme ça, très simplement, à cause de... Il faut situer ça dans notre contexte. Comme l'adoration était tombée en désuétude et qu'elle était même dépréciée dans certains milieux, alors il y a vraiment un retour en force et c'est une grâce ecclésiale de notre temps. Mais il y a des fois, parfois aussi, ça tombe dans certaines exagérations ou certains extrêmes, certains excès. Alors, il y a des communautés qui disent, on n'a pas de prêtre, il n'y a pas d'aumônier, tout ça, alors comment on va faire pour l'adoration? Alors, la mère supérieure, elle va ouvrir le tabernacle, et puis on fait comme ça. Alors, moi, je me dis, très bien, oui, alors on adore, oui, très bien, oui. Bon, qu'est-ce que ça change que le tabernacle soit ouvert ou fermé? Parce qu'on voit plus sensiblement l'hostie, oui. Qu'est-ce que ça signifie tout ça, si c'est nous qui faisons notre truc comme ça, au point de vue ecclésial, vous voyez? Moi, j'ai une petite question. Je ne dis pas une gêne, mais une petite question. Si c'est pas dans le cadre d'une célébration, avec vraiment un rite pour faire ce que fait l'Église et que veut l'Église et qu'elle propose. Vous voyez ça? Donc, juste ça. J'en tire pas plus de il ne s'agit pas de durcir, de cristalliser ces choses-là. Ce n'est pas du tout une condamnation. Mais voyez, c'est un peu toujours les coups de balance. C'est ça. J'ai un peu de mal à trouver l'équilibre.
Aux Philippines, près de l'église, il y a une salle qui on appelle Chapel of Adoration.
Oui, chapelle de l'adoration, oui.
Les gens, bien sûr.
Oui, mais c'est un lieu ecclésial. C'est dans l'église. Et alors, un autre point aussi qui me paraît essentiel, et on le verra avec Thérèse aussi, il faut que l'adoration soit bien mise en lien avec la célébration du sacrifice eucharistique. On n'adore pas la présence réelle comme ça, comme un absolu et comme un en soi. Il faut que ce soit absolument lié à la célébration du sacrifice eucharistique, à l'autel. Moi, je suis toujours un petit peu réticent aussi quand il y a des oratoires où il y a la présence eucharistique, la réserve eucharistique, complètement éloignée de l'autel, complètement éloignée, où il n'y en a pas du tout. Ça, je trouve que c'est mal signifié, c'est mal exprimé. Voilà. Bon, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. On va pas épiloguer là-dessus. Hein. Je ne fais pas un cours sur le service, ça viendra après. D'accord ? Donc gardons les proportions. Ça peut aller, ces éléments ? Alors, très bien. Arnaud, Père Arnaud, vous aviez une question.
Oui, en fait, simplement, si vous pouviez reprendre la fin de ce que vous avez dit hier, au sujet des citations, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Enfin,
tout ça pour dire que ça a été précipité, mais bon, voilà.
C'est pas faux.
Bien. Alors, à quel sujet précisément ? Veuillez être précis.
Bah oui, ça va être compliqué.
C'était le début du commentaire sur le Notre Père.
Oui, en fait, c'est plutôt la fin du début du commentaire.
Et alors, ça correspondrait...
Notamment le 29.4.5.
Ah, oui, d'accord.
Après nous avoir expliqué en 28.11.12 que voilà, il a été élargi.
Oui, parce que évidemment, bien sûr, tu as relu ces textes.
Bien sûr.
Oui,
c'est pour ça qu'on va relire.
Oui, oui, bien sûr, oui. D'accord. Alors...
Page 808, non.
Non, alors là, non, c'est sans, oui, non, c'est sans intérêt. Donc, tu te réfères à quel paragraphe exactement ?
29.
Oui.
4.5.
4.5, oui. Et tu n'as pas trouvé...
Non, mais si, j'ai trouvé dans le texte, mais... Oui. Mais je ne vois pas trop pourquoi vous l'avez...
Pourquoi je l'ai cité ? Oui, d'accord.
C'est pour une raison
importante,
mais je ne l'ai pas...
Oui, de fait. Alors, peut-être que les références sont un peu trop concentrées cette fois. Hein. Alors, il y avait cet élément. Alors là, ça débordait. C'était tout à fait la finale. Hein.
Ah oui,
c'était vraiment que ce recueillement dans la présence du Seigneur. Bon, il y avait un élément. Nous sommes inspirés dans la Trinité. C'était au chapitre 27. Tu te souviens de ça ?
Ah oui.
Hein, bon, ça va. Il y a d'autre part aussi, il ne vient pas tout seul. Il est avec toute la cour céleste. Et dans cette cour céleste, il n'y a pas d'envieux, il n'y a pas de jaloux comme à la cour de Madrid. Donc il y a une extension, une amplification, c'est-à-dire je me recueille avec le Christ et en lui, et puis tous mes horizons s'élargissent. Hein, c'est les cieux qui s'ouvrent à moi, ça va ? Hein ? Et le troisième élément que j'avais donné, ce sur quoi je pense tu butes, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du temps de recueillement, qui est un exercice, donc l'oraison de recueillement proprement dite, mais... C'est un exercice qui va déboucher, et vous retrouvez ça dans Je veux voir Dieu, c'est très nettement affirmé, sur une mise en présence, une recherche de présence quotidienne, constante. Hein. Alors c'est cette phrase, pour en revenir à ce que je disais, 29.4, je voudrais pouvoir expliquer comment, jusqu'où va, comment c'est cette sainte compagnie avec celui qui nous accompagne, le Saint des Saints. Hein. Qu'est-ce que tu as après, là, nous, en français ? Sans gêner.
Pour expliquer comment cette compagnie de saints qui accompagne le compagnon de notre âme, le Saint des Saints, ne l'empêche pas d'être seule avec son époux, quand elle veut entrer avec Dieu dans ce paradis qu'elle porte au-dedans d'elle-même et fermer la porte à toutes les choses du monde.
Oui.
Je continue.
Oui.
Je dis, lorsqu'elle veut... Car, comprenez-le bien, ce n'est pas ici quelque chose de surnaturel, cela dépend de notre volonté.
Oui. Alors, là, on a un autre élément sur lequel je n'ai pas du tout insisté hier, mais qui nous permet de faire la transition, une transition très habile avec la suite. Ce recueillement est mon effort, mon option et mon effort. Et oui, l'oraison de recueillement, c'est le recueillement actif. C'est-à-dire, c'est moi qui le recherche. C'est moi qui vais me donner les moyens, qui vais faire abstraction des choses extérieures, qui vais rentrer au-dedans de moi, qui vais faire silence, ou essayer. Je vais essayer. D'accord ? C'est mon activité, c'est mon exercice. Hein ? Bon. Et donc, c'est moi qui veux. Ça va ? Ce n'est pas la même chose, et elle laisse entrevoir, elle ouvre la porte sur ce que sera le recueillement infus ou passif, l'oraison de quiétude. Et là, elle dit c'est surnaturel. Alors, quand c'est surnaturel, la définition du surnaturel pour Sainte Thérèse, on l'a déjà évoqué hier, c'est ce que nous ne pouvons pas obtenir avec nos industries, dit-elle. C'est industriel. Non, c'est avec nos efforts, nos exercices, ce que nous cherchons. Ce que nous ne pouvons pas obtenir par nos industries. Ce qui est donné par Dieu dans notre silence, dans notre accueil, dans notre réceptivité. D'accord ? Donc voilà. Donc l'âme ferme derrière elle la porte au monde entier. Elle est dans ce paradis avec son Dieu, d'accord ? Hein ? Bon. Mais ce qu'elle nous fait comprendre, c'est que ça devient une compagnie. Hein ? et il nous accompagne. Donc nous, nous cherchons sa compagnie, lui nous accompagne. Qui dit accompagnement, ça veut dire que c'est tout le temps quelqu'un qui nous tient compagnie. Vous voyez ça? Est-ce que cela suffirait? Elle dit ensuite, au paragraphe 5, on s'habitue à ça. Elle dit, est-ce que tu peux lire le paragraphe 5, tu vas voir? Parce qu'on n'a pas toute la réponse au paragraphe 4. C'est ça, Sainte-Thérèse.
Il y a bien des manières d'en arriver là. Plusieurs livres nous enseignent de nous dégager ainsi le tout pour nous approcher intérieurement de Dieu et au milieu même de nos occupations à nous retirer au-dedans de nous.
Alors, se retirer, s'abstraire, c'est ça le recueillement. S'abstraire, abstraire. Retirer, se retirer, prendre du retrait, de la distance, du recul. Par rapport à tout ce qui nous occupe, ce qui nous obsède, ce qui fait pression sur nous. Ce n'est pas les choses, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas les réalités qui sont mauvaises. C'est l'attention que nous leur portons. Vous comprenez? La sollicitude que nous leur donnons, l'intérêt que nous leur portons et la passion. C'est ça le problème. Le problème vient de nous, en fait. Ça vient toujours de nous. D'accord? Bon. Donc, il faut faire abstraction, prendre du recul, de la distance, c'est ça le recueillement. Alors, dans le livre qu'elle lisait de François Francisco de Orsuna, dans le troisième AVCA spirituel sur le recueillement, j'avoue que ce sont des livres un petit peu fastidieux, je les ai lus à leur époque et je n'ai pas relu récemment, mais je me souviens qu'il y a des images très parlantes, très significatives, qui ont frappé Sainte-Thérèse. Elle a vu, il a cette image que le recueillement, c'est ça. Vous savez ce que c'est qu'un hérisson? Un hérisson, cet animal qui a des pointes, des piquants, c'est ça le hérisson. Je ne sais pas comment dire en anglais, vous voyez? Oui, c'est un porc épique, oui, enfin quelque chose comme ça. Le hérisson. Alors, le hérisson, quand vous vous approchez de lui et si vous donnez un petit coup de pied dessus ou s'il sent un danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en boule et il met la tête à l'intérieur. Alors, Osuna, il dit, c'est ça le recueillement. Si vous approchez d'une tortue qu'elle vous sent, il y en avait une à la cuisine autrefois, à notre âme de vie, et on s'amusait un peu, les garçons, vous tapez sur la carapace, et la tortue sent que le monde lui tombe sur la carapace, et elle met la tête à l'intérieur, elle rentre à l'intérieur dans sa maison. Alors, Osuna avait ces deux images-là, ou bien celle des abeilles qui rentrent dans la ruche pour faire le miel. Thérèse va reprendre ça aussi. Donc c'est ce style d'image qu'elle a vu et qui lui ont aidé à comprendre ce que c'était que le recueillement. On se recueille, mais c'est nous, c'est un recueillement actif, acquis. C'est nous qui nous disposons, qui coupons, qui disons maintenant ça suffit, elle dit Thérèse, maintenant ça suffit, on dit adieu aux choses du monde, on prend un livre, on s'arrête de tout, on arrête son travail, on pose ses livres, et puis on va à la chapelle, et puis paf, c'est terminé. Ou bien on va dans la nature, ou bien on s'abstrait. C'est ça, vraiment. C'est le minimum qu'on puisse faire. Dieu va le récompenser, c'est ça qu'elle va nous dire ensuite. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire, vous comprenez? Il faut le faire. Et elle nous dit, il faut le faire, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et cependant, la contemplation n'est pas au bout de cet effort. C'est un don gratuit de Dieu. Nous ne faisons que nous disposer. Et ouais, c'est toujours on est toujours devant ça, cette réalité. Pourquoi? Parce que c'est surnaturel. Rien à faire, on bute là-dessus. Surnaturel, ce que nous ne pouvons pas nous procurer par nos efforts. C'est très simple, on s'intéresse. Allez pas dans les grandes questions de Lubac et tout ça, c'est sûr, ça ne pose pas. Sur ce que c'est que le surnaturel au XXe siècle, non. J'appelle surnaturel ce que nous ne pouvons pas nous procurer par notre industrie. Relation 5 au père jésuite Rodriguez à Séville pour l'Inquisition. C'est simple. Ouais.
Elle dit en même temps que même si nous n'avons pas ce don de la contemplation, Dieu ne nous prive de rien.
Non.
Il agit autrement.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait d'accord, c'est ce que nous avons vu avec les sœurs de Saint-Joseph. Voilà. Alors, après, il y a un aspect qui peut-être pourrait être creusé, approfondi. Vous avez la ligne que Saint-Thérèse développe au sujet de la contemplation, ce que nous allons voir, c'est donc cette ligne de la quiétude et de l'union, donc ce silence des puissances de l'âme que Dieu met au repos et auquel il fait sentir sa grandeur. Saint-Jean de la Croix parlera davantage d'un aliment de lumière qui nous est donné, que l'âme trouve en elle-même, dans son estomac. C'est tombé tout d'un coup, sans qu'elle ait mangé et mastiqué. D'un coup, ah, voilà. Donc il y a une lumière, une illumination. Saint-Jean de la Croix va davantage de ce côté de la lumière. Saint-Thérèse va davantage du côté de la volonté affectivité, hein, amour qui est comblé par cette paix. Vous voyez ? Elle va davantage dans ce sens-là. Ce sont deux tempéraments différents et qui donc expriment ce que c'est que la contemplation de manière complémentaire. Vous voyez ça, hein? Alors je pense qu'il faut tenir l'un et l'autre. Saint Thérèse s'attachera à décrire même les effets jusque sur la sensibilité. Ça l'intéresse, elle le montre. Hein? Ce n'est pas à négliger non plus. Hein? Selon les tempéraments, selon les cultures aussi. Il est évident que pour des esprits rationnels, j'allais dire franco-allemands, alors c'est peut-être plus Saint-Jean de la Croix avec l'aspect lumière intellectuelle qui, voilà. Hein. D'autres cultures seront davantage autrement, hein, vous voyez ça?
Bon.
Oui, Saint-Jean de la Croix est quand même espagnol, hein, donc voilà, hein, il a une forte rationalité aussi. Hein, donc, enfin, bon, il peut y avoir des cultures ou des tempéraments ou des époques, ça aussi, des époques. Qui sont davantage d'un côté que de l'autre. Hein. Ça va ? Quand le Père Marie-Eugène distingue cela dans Je veux voir Dieu, Dieu lumière, Dieu amour, un chapitre, il écrit dans les années 49-50 où je crois que les gens étaient encore intellectuels. Je crois que maintenant, nous ne le sommes plus. Donc il y a peut-être quelque chose Mais je crois, hein, que c'est assez différent. Il avait affaire à des gens qui avaient vraiment une formation, une culture intellectuelle. Une forte rationalité, et je crois que c'est très différent maintenant. Donc il faut peut-être penser un peu les choses aussi à ce niveau-là. Ça donne à penser, à réfléchir. Voilà. D'accord ? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas Benoît XVI. Hein ? Benoît XVI, qui, vous savez, a dit plus d'une fois, et moi, je ne suis pas mystique. Il a dit dans Lumière du Monde. Non, je ne suis pas mystique, il dit ça comme cela. Peut-être qu'il veut dire ça par comparaison à Jean-Paul II, j'en sais rien, c'est peut-être ça, je sais pas trop, hein, qui lui, bon, Saint-Jean de la Croix, tout ça, et non, Benoît XVI, c'est, oui, Augustin, Bonaventure, tout ça, mais en fait, il est mystique, mais bon, il veut dire pas mystique selon, peut-être, la conception qu'on en a, voilà. Bon. Donc tout ça, ça mérite des affinements. Est-ce que la réponse est suffisante?
C'est merveilleux. Simplement, dans Je veux voir Dieu, c'est le chapitre Dieu, lumière, Dieu, amour.
Oui, il y a un chapitre Dieu, lumière, de l'amour sur cet aspect-là, oui. Oui, sur cet aspect-là. Il y a aussi le chapitre sur l'horizon de recueillement, que tu peux vérifier.
Ouais, c'est...
Merci.
Oui, les premières horizons contemplatives aussi. Hein, dans la deuxième partie.
Oui.
Troisième partie. Non. Quatrième partie, je me trompe, là je fais des salades. Quatrième partie. Je suis en train de réviser la deuxième, alors je mets tendance à tout mettre là-dedans. Quatrième partie, au tout début. Premières horizons contemplatives dans les premiers chapitres. Voilà. Y aurait-il d'autres questions ? Hein ? Non ? Bon, alors, nous allons pouvoir rentrer maintenant dans le point numéro 4 de notre programme. À 5, je me trompe. Oh là là. Oui, vous avez raison. Contre moi. Numéro 5. Oui, nous travaillons le point 5 aujourd'hui. J'ai encore deux chronologies. Personne ne les veut?
Non.
Ah oui, ça m'embarrasse. Ah, ben voilà. Ah, désolé. C'est dans le seuil, hein. Vous allez vous arranger. Vous pouvez vous arranger une pour deux, puis vous le passez au Père Edwin. Voilà, c'est ça. Comme ça, ça part aux Philippines, c'est bien. Hein? Ah, peut-être. Mon père.
Je leur fais le.
Alors, je voudrais vous faire saisir maintenant quelque chose qui m'est apparu en étudiant, réétudiant le chemin de la perfection, en enseignant un certain nombre de fois, qui m'est apparu très, très clairement et comme quelque chose de génial chez Sainte-Thérèse. C'est ce triptyque dont je vous l'ai mis en tableau. Alors, comme dit, j'ai donné cohérence évangélique et équilibre catholique du commentaire thérésien du Pater. Nous sommes donc entrés dans le commentaire du Pater. Bien. Notre Père qui es aux cieux. Vous voyez, vous vous rappelez la problématique qui est en toile de fond du chemin de la perfection autour de l'oraison. Vous rappelez ça? Et donc, ça m'apparaît comme quelque chose d'assez génial chez elle, en réponse à toutes les problématiques, la manière dont elle a su articuler les paroles du Notre Père et leurs commentaires. Et il m'apparaît très nettement la cohérence, si vous voulez, de ce triptyque. J'ai mis évangélique et équilibre catholique, parce que, bien sûr, nous lisons l'Évangile dans la tradition catholique, hein, avec Thérèse, c'est très clair. C'est tout à fait... évident pour elle, hein, évident et maîtrisé. Hein. Et nous avons vraiment un triptyque. Il y a d'une part la contemplation, ce qu'elle est dans son expérience et telle qu'elle l'a décrit pour ses sœurs, avec les paroles du Pater, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, donc deux paroles du Notre Père. Puis le sacrement de l'Eucharistie au centre, commentaire alors de la parole du Notre Père qui en soi n'est pas que le pain eucharistique, et là ça va catcher avec le censeur justement, elle a pris une option qui ne plaît pas totalement au censeur, le pain, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et vous avez... trois chapitres, chapitres 33 à 35, donc vous aviez trois chapitres avant aussi, et puis vous avez aussi le commentaire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », deux chapitres, je vous ai mis entre parenthèses ceux du seuil, ça va ? Pour que vous vous y retrouviez, hein ? Vous voyez, il y a toujours un décalage de deux. Et donc c'est la question du pardon et de la réconciliation dans la vie chrétienne. Vous voyez donc qu'avec ces paroles du Notre Père et puis ce qui est évoqué, nous touchons quand même trois grandes dimensions de la vie chrétienne. Donc au début, ce projet de nous parler de quelque chose, de l'oraison et de quelques remèdes, hein, vous voyez que ça s'est singulièrement élargi. Hein, et que c'est, j'allais dire, c'est une charte de vie chrétienne, de vie consacrée hein, qu'elle donne. Et que, d'une part, vous avez l'élément d'intériorité, de subjectivité, et puis tout le rapport de la grâce et de la liberté, du surnaturel et du naturel, le premier point, avec la contemplation. Vous avez ensuite, vous aurez donc la dimension sacramentelle et l'Eucharistie, la présence eucharistique du Seigneur. Qui fait l'Église. Et puis ensuite, vous avez cette dimension du pardon et de la réconciliation qui est essentielle à la vie chrétienne, donc elle aborde. Et tout cela est articulé, tout cela est abordé à partir de la contemplation et à partir de l'Eucharistie. Le pardon des offenses est un fruit de la contemplation, elle le dira. Quelqu'un qui s'approche de si près de la miséricorde de Dieu dans la contemplation, de cette fournaise qui est la miséricorde de Dieu et qui en est brûlée, s'il n'est pas capable de pardonner les plus grandes offenses qui soient à son prochain, c'est qu'il n'est pas contemplatif, qu'il n'est pas entré en Dieu. C'est un test. Et puis, elle commence le chapitre sur le pardon des offenses. Hein, elle commence le le chapitre sur l'Eucharistie en disant « Avec ce sacrement, tout nous est rendu facile. » Avec ce pain, tout nous est rendu facile. Donc c'est avec le pain eucharistique, le pardon et la réconciliation sont possibles aussi. C'est une force pour le pardon et la réconciliation. Donc voilà. Non, je me trompe. Tout nous est rendu facile, c'est le début de 36. Voilà, j'ai fait un micmac. Avec cette nourriture, tout nous est rendu facile. Donc elle dit ça d'emblée, puis après elle parle du pardon. C'est vrai qu'elle nous laisse faire les liens entre les choses. Débrouillez-vous. Moi j'écris. J'écris le soir et après débrouillez-vous. Et c'est vrai que quand vous regardez cet ensemble-là, c'est assez saisissant de voir cette, oui, cette cohérence, cette articulation. Il y a quelque chose d'assez génial, quoi. Non. Donc c'est autre chose qu'un petit traité. Sur la prière personnelle, quoi, hein. C'est beaucoup plus vaste. Et ça en montre toutes les implications et tout l'impact. Voilà, je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. Bien, alors abordons-le. Ah, j'aurais pu vous donner la pause maintenant, après tout. Bah oui, tu en as qu'à faire ça. Oui, allez, il est 16h13.